Alléluia, gloire à Dieu. Je vous invite à faire une lecture sans plus tarder dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11. Si vous n'avez pas de Bible, quelqu'un à côté de vous aura toute la joie de pouvoir partager ce merveilleux livre avec vous. Nous puissions lire ensemble, donc dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, au verset 15. Marc 11, verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Amen. Un moment pas commun lorsqu'on lit les évangiles, on dit souvent « Jésus nous aime tel que nous sommes », c'est une réalité. « Jésus nous accepte et est venu jusqu'à nous », c'est une réalité. Et là, on voit Jésus qui arrive dans le temple, qui arrive dans un endroit où on vient adorer le Seigneur, où on vient écouter la parole de Dieu également. Et là, dans ce lieu, Jésus va faire le ménage. Il va faire le ménage. Ça vous arrive de faire le ménage? C'est bien. Lorsqu'on vient dans ce lieu, on aime trouver ce lieu propre, etc. Avez-vous trouvé ce lieu agréable pour pouvoir y rentrer, etc.? Je crois que oui. Je crois qu'on peut également remercier ceux qui prennent du temps à part pour que ce lieu soit propre. Mais en règle générale, nous aimons venir, entrer dans un lieu qui est propre, que ce soit chez des amis ou quelque part. Nous aimons être dans un lieu où nous nous sentons bien, ou un lieu qui est agréable, un lieu qui est rangé, où les choses sont à leur place. Et si en entrant dans ce lieu, nous aurions trouvé des chaises pour pouvoir s'asseoir, de quoi faire la musique pour louer le Seigneur, un pupitre pour pouvoir poser une Bible, etc., nous aurions pu nous poser des questions. Si nous étions rentrés dans ce lieu et que nous avions vu un tas de déchets, de poubelles, je ne pense pas que nous serions restés, mais nous serions repartis avec une pensée un petit peu particulière de ce lieu. Et cela m'a fait penser un petit peu à une émission de télévision, C'est du propre. Vous connaissez? Ah, je vois que je ne suis pas le seul à connaître. Ça m'a toujours interpellé cette émission parce qu'on voit deux femmes d'un certain âge qui arrivent chez des gens qui ont été appelés pour aller faire du ménage chez quelqu'un. Sauf que ce n'est pas un ménage comme les autres. Hein. Quand ils arrivent à ouvrir la porte, ils font face à des montagnes de poubelles, à des montagnes de choses qui ont été rangées et qui ont été stockées depuis des mois, voire des années. Et si les personnes qui vivent dans ce lieu se disent sur le moment, peut-être bien, peut-être qu'ils se sont habitués à toutes ces choses-là, on s'aperçoit quand même qu'à la fin de chacun de ces épisodes, lorsqu'ils demandent « Mais ne vous trouvez pas mieux dans une maison rangée ?» ils diront « C'est clair, on se sent mieux, on se sent respirer, l'air est plus sain, l'air est plus pur, et il n'y a plus de saleté, nous avons toute liberté de nous asseoir dans le canapé qu'on ne voyait plus. » On peut enfin prendre notre douche dans une salle de bain propre. On peut enfin se coucher sur un matelas qui respire le propre. Parenthèse fermée. Mais lorsque Jésus arrive dans le temple, ce n'est pas un tas de poubelles qu'il va rencontrer, mais c'est quand même un certain ménage que Jésus va accomplir dans ce lieu. C'est un coup de propre que Jésus va vouloir faire. Il va entrer dans le temple et il va le voir des choses qui n'ont pas leur place dans le temple. Il va voir de ceux qui achetaient, qui vendaient, les tables de changeurs, il va voir des vendeurs de pigeons, il va voir des personnes qui déplaçaient les choses dans l'église, dans le temple, etc. Et la Bible nous compare, on l'a vu ce matin également à Vennes, hein, mais la Bible nous compare notre vie à un temple. Mais qu'y a-t-il dans le temple que nous sommes? Qu'y a-t-il dans notre vie? Qu'est-ce qui prend de la place? Qu'est-ce que l'on peut trouver lorsque on vient entrer chez nous, lorsque l'on vient à nous connaître? Et lorsque nous lisons ce texte, on voit Jésus faire du ménage dans le temple en chassant tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et je crois également que ce ménage-là, Jésus veut le manifester dans chacune de nos vies. Non pour nous enlever les choses primordiales, ce qui nous rendrait heureux, mais au contraire, pour enlever tout ce qui ne nous rend pas heureux, tout ce qui nous amènerait peut-être à croire qu'on se sent bien, mais au final, qui nous amène que tristesse, qui ne nous amène pas d'épanouissement véritable. Et Jésus, lorsqu'il accomplit ce ménage, que ce soit dans le temple, mais surtout lorsqu'il veut accomplir le ménage dans un cœur, c'est pour apporter quelque chose de nouveau, apporter quelque chose de propre, quelque chose de net, quelque chose de lavé, de pur. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus dans une vie. C'est ce que Jésus veut manifester en chacun de nous. C'est ce que Jésus est venu faire. Alors, quand on replace un peu ce texte, notamment dans le contexte, quand on lit les versets, les chapitres qui précèdent ce moment, le passage que nous avons lu, on voit que Jésus fait des choses extraordinaires. Il guérit des malades, il nourrit des foules entières, il a un enseignement qui est exceptionnel et qui amène des foules à croire en Jésus, lui qui est le Fils de Dieu, et sa renommée, elle est grandissante. Au point qu'il va entrer dans Jérusalem sous les acclamations de la foule. Il va être acclamé, porté en triomphe. Et Jésus arrive dans le temple et il ne va pas se dire « je vais surfer sur mon succès », mais il va faire place nette pour faire du ménage là où il était nécessaire de faire du ménage. Et Jésus ne va pas faire cas de sa renommée. Et ce que Jésus est venu faire, et ce qu'il est venu apporter sur terre, ce n'est pas juste une renommée, mais c'est surtout une expérience véritable dans les cœurs. C'est au travers de son amour, au travers de la grâce qu'il veut manifester dans chacune de nos vies, et surtout au travers de ce qu'il a manifesté à la croix, où il a donné sa vie. C'est au travers de ce merveilleux miracle que Jésus est capable encore aujourd'hui de faire le ménage dans nos vies, de nettoyer nos vies, de laver nos cœurs de tout ce qui pourrait être sale, impur. Peut-être que l'on ne voit pas ce qui est sale, ce qui est impur. Alors, on peut regarder pendant quelques instants justement ce qui dans nos vies pourrait nous amener à faire de la place à des choses qui ne devraient pas prendre tant de place. Et qu'au final, ces choses grandissent en nous et empêchent à Dieu de prendre la place qui lui revient. Parce que ce que Jésus est venu accomplir sur terre également, ce qu'il est venu remettre à sa place, c'est surtout une relation entre l'homme et Dieu. Une relation qui a été coupée. La Bible nous dit que ce sont nos transgressions qui nous éloignent de Dieu, qui ont mis une barrière entre l'homme et Dieu. Mais cette barrière, Jésus est venu la faire tomber. Jésus est venu mourir sur la croix, portant chacune de nos transgressions à notre place. Et lorsqu'il est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. Et nous avons, chacun de nous, à la possibilité de s'approcher librement de Dieu au travers de Jésus. Et nous l'avons chanté, « Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ ». Et si on veut rétablir quelque chose avec Dieu, et combien c'est le désir de Dieu encore cet après-midi, de rétablir une relation, une connexion. Alors peut-être qu'on est connecté en 3G, en 4G, je ne sais pas si on va arriver à 5G, 6G ou je ne sais pas quoi encore, mais au-delà de cette rapidité de dialogue que l'on peut avoir entre les hommes, il y a une rapidité, un dialogue instantané que Dieu veut placer entre l'homme et lui. Et c'est ce que Jésus est venu accomplir. Et cela va agacer un petit peu. Cela va agacer un petit peu les religieux dans le temple. Les principaux sacrificateurs et les scribes, nous l'avons lu, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr. À partir de ce moment-là, ça va être comme un tournant dans le ministère de Jésus, dans la vie de Jésus, mais également pour l'humanité. Et si avant, Jésus pouvait être toléré, là, Jésus va toucher à quelque chose que les religieux, que les pharisiens, que les scribes, etc., vont avoir du mal à accepter. Parce que ça touche à leur domaine. Et parfois, dans nos vies également, on a du mal à laisser Dieu toucher ce qui pourrait, ou ce qu'on pourrait appeler peut-être notre jardin secret. Ça, c'est à moi, pas touche. Mais l'œuvre de Jésus, c'est une œuvre entière. Une œuvre que Dieu veut faire dans la vie tout entière, pas seulement dans une partie. Et lorsqu'on accepte, lorsqu'on fait ce pas de foi d'inviter Jésus dans notre temple, dans notre maison, dans notre vie, alors on voit combien ce qu'il accomplit est bien meilleur ce que nous pouvons accomplir pour notre vie. Les religieux, à partir de ce moment-là, vont tenter, éprouver Jésus par divers moyens afin de l'amener à pécher, afin de le discréditer aux yeux de la foule et pour que vraiment la foule puisse se tourner comme avant vers les religieux, vers les pharisiens, vers les scribes, etc., pour s'éloigner de Jésus. Mais Jésus est celui qui rassemble. Jésus est celui qui veut unir. Jésus est celui qui, par un message d'amour, nous amène à aimer Dieu, mais nous amène également à nous aimer entre les hommes. C'est important. C'est important. Cet amour véritable, il se trouve en Jésus. Il y a un autre moment dans la parole de Dieu où le ménage est fait. C'est le moment où Jésus parle de la parabole de la drachme perdue. C'est un moment, c'est une trilogie, c'est pas Star Wars, hein, mais c'est la trilogie de la joie de retrouver ce qui était perdu. La brebis perdue, le fils perdu et la drachme perdue. Et il y a cette femme qui avait 10 drachmes et qui va en perdre une. Et lorsqu'on lit ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 15 notamment, on voit les différentes étapes que cette femme va mettre en œuvre pour retrouver cette pièce de monnaie, pour retrouver cette drachme. Premièrement, elle va allumer la lumière. Et lorsque Jésus va venir dans le temple, il va amener la lumière, parce qu'il est la lumière du monde, nous dit la parole de Dieu. Il est cette lumière qui éclaire tout homme. Et lorsque Jésus vient à nous, c'est pour nous apporter la lumière sur son amour, mais la lumière également sur ce qu'est notre vie. Et que notre vie et que notre être tout entier a besoin de Jésus. Que nous avons besoin de Jésus si nous voulons avoir une véritable vie, si nous voulons vivre un véritable bonheur, si nous voulons véritablement nous épanouir et si nous voulons amasser quelque chose de valeur pour notre éternité. Parce que ce que Jésus nous propose, c'est une vie éternelle. Alléluia. Et cette femme va allumer la lumière et une fois qu'elle aura allumé la lumière, elle va balayer la maison pour pouvoir chercher soigneusement sa drachme qui était perdue. Jésus est arrivé au temple, il a apporté la lumière et il va faire le ménage pour retrouver ce qui a été perdu, cette relation avec Dieu, cette communion avec Dieu, cette coupure qui était là. Jésus veut ressouder, veut renouer cette liaison avec l'homme. Lorsque Jésus entre dans le temple, la première chose que Jésus a fait était de chasser ceux qui vendaient, ceux qui achetaient et de renverser les tables des changeurs. Le métier de changeur est en fait l'origine du banquier. Et cela nous parle, bien sûr, de l'argent, mais surtout des richesses, des biens du monde. Et Dieu n'est pas contre le fait d'avoir de l'argent, Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des biens, Dieu n'est pas contre le fait d'être bien habillé, d'avoir une belle voiture, etc. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Vous savez qu'Abraham était fort riche. Eh oui, Et Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des richesses. Mais qu'est-ce qui prend la première place? Et là, le problème, c'est que dans le temple, ce n'était pas l'endroit pour étaler ses richesses, pour parler d'argent, pour faire du trafic, pour vendre, pour acheter, pour changer, et pour pouvoir s'arranger. C'est bon, je t'arrange. Et ouais, ça c'est la mentalité du monde. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas de la mentalité du monde. Ça doit être quelque chose de nouveau. Et c'est ce que Jésus est venu apporter. C'est quelque chose de nouveau, une mentalité nouvelle, des aspirations nouvelles. Et on veut amasser des choses sur terre, bien sûr, je le répète, on n'est pas mystique et on n'est pas là à dire qu'il faut se séparer de tous nos biens, qu'il faut vivre dans la pauvreté. Non, non, on ne dit pas ça. On dit juste, et c'est ce que Jésus dira, laisse Jésus à la première place. Parce qu'au final, tous nos biens, toutes nos richesses, tout ce que l'on peut amasser sur terre, ben ça vient de lui. Ça vient de lui. Si on n'a pas la santé, le souffle de vie renouvelé pour se lever le matin et pour aller travailler, ça sera difficile d'amasser. Plutôt, on va dire, en étant dans les moyens légaux, quoi. Si on n'a pas les capacités pour accomplir telle tâche, on aura du mal à pouvoir gagner notre salaire et pouvoir vivre nous-mêmes, faire vivre notre famille et pourquoi pas épargner ou acheter une maison, un appartement, une voiture, etc., etc. Et tout ce que nous avons, nous dit la parole de Dieu, nous vient du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il ne change pas. Il veut bénir. Il veut nous donner. Et la parole de Dieu nous dit et nous rappelle à plusieurs reprises combien il veut donner au-delà de ce que l'on pourrait espérer. Et le problème, c'est si il y a dans le cœur l'amour de l'argent qui prend la place sur l'amour de Dieu. Et Jésus nous appelle à l'aimer parce que lui, il nous aime. Lui, il nous aime tellement qu'il a donné son fils Jésus, son fils unique. Il l'a laissé mourir sur la croix. Et lorsqu'il est sur la croix, il nous a même dit qu'il a abandonné son fils par amour, non pour son fils, mais pour nous, pour l'humanité, pour chaque homme, chaque femme, de toute génération, de tout temps, de tout pays, de toute race, de toute origine. Dieu nous aime, Dieu vous aime. C'est pour cela qu'il a donné son fils. Et quand quelqu'un nous aime, généralement, on ne peut qu'aimer en retour, ou c'est tout du moins ce que la personne qui nous aime attend en retour également. Paul pourra dire à Timothée que l'amour de l'argent est une source de tous les maux. Dans une autre version, c'est l'amour de l'argent est une source de toute espèce de mal. Et quand la parole de Dieu également nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », selon ce qui va remplir notre cœur, si c'est les sources, si c'est l'amour de l'argent, ça sera une source qui amène le mal. Mais si c'est l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs, alors c'est la vie qui va entrer en nous. Et Dieu pourvoira à chacun de nos besoins, comme nous dit la parole de Dieu. Dieu pourvoira. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu d'hommes qui ont des richesses, mais d'autres également, et d'autres qui ont des richesses et qui restent proches de Dieu, et d'autres qui ont des richesses, mais qui prennent trop de place. Le jeune homme riche qui viendra à Jésus pour lui dire « Que dois-je faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle ?» Et alors que Dieu lui dira « Observe les commandements, etc. », il dira « Mais j'observe cela depuis ma jeunesse. » Et Jésus lui dira « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis suis-moi. » Et à nouveau, je répète, mais Jésus ne dit pas qu'il faut se détacher de tout. Mais Jésus avait mis le doigt sur ce qui était la priorité dans sa vie. Et si cet homme avait accepté de dire « Ok, je me détache de toutes ces choses-là pour suivre Jésus, parce qu'il dira « Suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. » S'il espérait plus à avoir un trésor dans le ciel, alors je crois qu'il aurait été même béni sur terre. Il y a une parabole du riche insensé qui a amassé. Et Dieu lui dira, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Parole de Dieu, et Jésus le répète et nous le dit. Il dira, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le plus grand des trésors, si vous ne le connaissez pas encore, si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est Jésus. On l'a chanté, né de la poussière, et tout ce qui est sur la terre passera. La parole de Dieu, elle ne passera pas. L'amour de Dieu ne passera pas. Et il nous appelle à épargner auprès du bon banquier, auprès de celui qui a toutes choses entre ses mains et auprès de celui qui est le véritable trésor, Jésus-Christ. Et puis, ensuite, Jésus va chasser les vendeurs de pigeons. Si la colombe est le symbole de la pureté, je crois que le pigeon est certainement l'opposé de la pureté. Cet oiseau transmet des maladies, des bactéries, notamment à cause de ses déjections, etc. Et on voit tous les ans des reportages sur notamment notre capitale ou dans des grandes villes, etc., où les pigeons ont cette capacité de salir grandement les monuments, les trottoirs, etc. J'avais, là où j'habitais juste avant, on habitait sur une maison où il y avait des appartements dedans, et on était au dernier étage. Et au niveau du toit, il y avait régulièrement des pigeons. Et c'était agaçant quand même, parce que le matin, ils nous réveillaient. Et surtout, ça salissait tout. Alors, je me suis dit, comment je vais faire? Et puis, j'avais un pistolet à billes, ne faites pas ça. Hein. Et je me suis dit, je vais utiliser ça pour leur faire peur, et voilà, peut-être qu'ils vont partir. Je ne sais pas pourquoi, le jour où j'ai voulu faire ça, ils ne sont plus venus. Voilà, ils ont dit, celui-là, il craint un peu, je vais partir. Hein. Les pigeons, ça salit les choses, ça salit, etc. Et les pigeons est certainement le symbole de l'impureté. Et ce que Jésus veut nettoyer dans nos vies, c'est toute l'impureté qui pourrait s'amasser, qui pourrait s'accumuler dans notre vie. Toutes ces choses qui, sans que nous en prenions garde, viennent salir notre âme, viennent salir notre cœur. Toutes ces choses sensuelles, violentes, gore, que l'on peut voir, que ce soit dans des pubs, dans des films, etc. Et les gens sont avides de ces choses. C'est incroyable, hein. Mais les gens sont avides de ces choses et de se faire peur. C'est vrai. Alors, je ne dis pas qu'on va regarder Bambi toute la journée, mais il y a des choses que je pense, notre œil n'est pas appelé à contempler, parce que ce que notre œil regarde, ça rentre directement dans notre cœur. Et sans que nous en prenions garde, ça s'accumule, et on devient comme un petit peu insensible à la pureté. Insensible à la pureté, et on accepte l'impureté. Mais Jean pourra dire dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 7, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et ce que Jésus veut accomplir dans chacun de nos cœurs et dans votre cœur encore cet après-midi, au travers du sang qui a coulé à la croix et qui a encore toute son efficacité encore aujourd'hui, c'est purifier nos cœurs, c'est purifier nos âmes, c'est purifier nos pensées, purifier nos mentalités, purifier nos aspirations, nos projets, nos désirs, tout ce que nous pouvons projeter dans notre vie, tout ce que on pourrait imaginer pour notre vie, pour notre famille, tout ce que l'on veut faire pour peut-être amasser encore. Jésus veut purifier tout cela. Jésus veut purifier pour nous amener à vivre une vie pure, parce que Jésus est saint. Dieu est saint. Il est pur et il nous amène, et son désir est de nous rendre semblables à lui. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Tout-Puissant, que celui qui a tout créé, celui qui a créé les montagnes et la neige, celui qui a créé la mer, qui a créé la terre, qui a créé toutes ces choses merveilleuses. N'est-ce pas merveilleux de voir que Dieu veut nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ? Il veut nous rendre saints. Il nous dira, soyez saints, car je suis saint. Son désir, c'est purifier nos cœurs, purifier nos vies. Et puis, il y a une chose extraordinaire dans une race de pigeons, les pigeons voyageurs. Vous connaissez ? Ils ont cette capacité à retrouver leur chemin, à savoir dans quelle direction se diriger, même s'ils ont les yeux bandés. Bon, je n'ai pas fait l'expérience, j'ai regardé sur les sites internet, etc. Je n'ai pas des pigeons à la maison. Cela s'explique par le fait qu'il y a dans le cerveau de ces pigeons comme des petits aimants qui le guident et qui fonctionnent comme une boussole. C'est intéressant comme quoi, hein, ce que Dieu fait. Hein. Et pour nous, c'est quelque chose d'important parce que bien souvent, nous menons notre vie comme bon nous semble. Nous allons là où nous aimons aller. Nous nous dirigeons selon les choix qui sont animés par notre propre cœur. Et on se rend compte que bien souvent et que parfois, on fait des erreurs. Mais que si on fait confiance au bon guide, si on reste les regards fixés sur celui qui est venu pour guider notre vie, alors on est assuré d'arriver à bon port. On est assuré d'arriver à la bonne fin, à la bonne ligne d'arrivée. Cette bonne ligne d'arrivée, c'est le ciel. Et en jetant et en chassant toutes ces choses-là, Jésus veut chasser l'impureté, mais également veut rappeler que c'est lui qui doit être le seul guide de notre vie. C'est lui qui doit être notre boussole. C'est lui qui doit être notre chemin. C'est lui qui trace le chemin devant nous. Et il marche, il nous précède et il nous appelle à marcher à sa suite. Lorsque j'étais plus jeune, ça tombe bien, il y a mes parents. Lorsque j'étais plus jeune et qu'on partait en vacances en famille, il n'y avait pas de GPS à l'époque. Alors les jeunes, ils vont dire « Ouais, il est vieux, etc. » J'entends, c'est bon, j'ai compris. Le GPS n'existait pas, mais il y avait ce qu'on appelle, ce que les jeunes ne connaissent pas, les cartes routières. Vous connaissez ? Il y avait même l'encyclopédie des cartes. À chaque fois, c'était la suite, c'était pas du tout derrière. Hein. C'était 100 pages après. Bon. Et on partait en vacances, et généralement, si ce n'est pas systématiquement, mon père disait « Je vais prendre un raccourci. » Et le problème, c'est que le raccourci se transformait souvent en rallongi. Et on perdait bien du temps. On perdait bien du temps sur le chemin. Alors, il n'y avait pas la clim non plus dans les voitures. Bon, puis en plus, nous, on habitait en Normandie, alors la clim, là-haut, il n'y en a pas trop besoin, mais on descendait au soleil. Donc évidemment, quand on passait Valence, on disait, là, il y a besoin de la climatisation. Mais bon, on ouvrait les fenêtres, hein, la climatisation naturelle. Oui, parce que c'était à la main, c'était pas électrique non plus. Et on partait comme ça en vacances. Alors là, quand ça commençait à rallonger, il y avait les trois derrière, on n'en pouvait plus. Alors on disait souvent, quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? Et puis, alors ça ne disait rien, mais ça commençait à monter. Vous imaginez la scène. Mais le meilleur GPS pour notre vie, c'est le Seigneur. Celui qui saura nous guider sur le bon chemin, celui qui mène à la bonne destination, c'est le Seigneur. N'essayons pas de dire « je vais prendre un raccourci parce qu'on va rallonger ». Eh ouais. N'essayons pas de dire « ce chemin-là, je sens que c'est pas mal ». Je sens que ça va me faire gagner du temps et je vais moins peiner. Mais au final, on arrive à un moment donné où on a une voie sans issue. Ah, bah, faut faire marche arrière. Le Seigneur est celui qui veut et qui a tracé un chemin qui mène au ciel, qui mène à Dieu. Il est ce chemin. Suivons Jésus. Et lorsque Jésus vient dans ce temple pour faire le ménage, pour enlever l'impureté, pour enlever les aspirations de vivre comme avec le désir seulement d'amasser des trésors du monde, il vient également pour nous rappeler qu'il est le seul chemin. qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il est ce chemin de vérité qui mène à la vie éternelle. Suivons Jésus. Marchons dans l'empreinte de ses pas. Et puis, je termine, il a chassé le voleur et ceux qui déplaçaient les objets dans le temple. Il ne laissait personne déplacer les objets dans le temple parce que chaque chose avait sa place. Parfois, dans nos vies, nous repoussons les limites, nous repoussons les bornes, nous déplaçons certaines choses que Dieu a instaurées. On le voit de plus en plus avec les lois qui sont votées notamment. Et de plus en plus, on s'habitue à déplacer des limites que Dieu a fixées dans la parole de Dieu. Et on n'est pas là pour faire de politique, hein, mais on est là pour rapporter ce que Jésus, ce que Dieu enseigne dans la parole de Dieu, qui est la vérité. Ta parole est la vérité. Et Dieu enseigne des choses qui nous amènera à vivre le bonheur. Et c'est seulement ces choses, ce sont seulement ces enseignements qui nous permettront de vivre l'éternel bonheur. Et de plus en plus, nous repoussons des limites. Et le diable se réjouit de ces choses parce qu'au bout d'un moment, à déplacer, le désir du diable, c'est d'enlever les limites complètement. Et c'est ce que Jésus dira. Vous avez fait de ce lieu une caverne de voleurs. Vous avez déplacé, et au bout d'un moment, il n'y a plus les choses, vous les avez enlevées. Et c'est ma maison qui devait être une maison de prière est devenue une caverne de voleurs. Et Jésus est venu rétablir ces choses, il est venu rétablir tout ce qui avait été déplacé, tout ce qui avait été enlevé, tout ce qui avait été volé. Jésus pourra le dire dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 10, c'est facile à retenir. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Ce que Jésus est venu nous donner, ce n'est pas seulement une bénédiction, mais c'est une vie en abondance. C'est la vie éternelle au travers de son œuvre à la croix. C'est ça le cadeau de Jésus. Alors, Jésus est là et il fait le ménage. Et je crois que dans nos vies également, que nous soyons engagés ou pas déjà avec le Seigneur, on a bien besoin parfois de laisser le Seigneur Jésus faire du ménage dans notre vie, de remettre les limites, les bornes à leur place, celles qui nous amèneront à vivre le vrai bonheur. Vous connaissez ce jeu, je ne sais pas si les enfants y jouent encore, mais à mon époque, ils le jouaient. Alors, ils jouaient à cela. En vélo, ils roulaient. Et c'est à celui qui s'arrêtait le plus près du bord du précipice. Et... Non, vous n'avez pas joué à ça? Bon, il n'y a que dans le Nord. Bon, on est peut-être un peu fous, je ne sais pas. Ouais, mais ici, vos montagnes, elles sont trop grandes. C'est pour ça, elles font peur. On ne veut pas y monter. Et il y a ce jeu, et combien il y a eu de drames, parce qu'au final, à repousser les limites, on repousse, au bout d'un moment, on tombe. Et le problème, c'est que pareil, dans spirituellement, et avec le Seigneur, au bout d'un moment, à repousser, et avoir les limites toujours repoussées, au bout d'un moment, on risque de tomber, et plus que de se faire mal. Parce que si on repousse sans arrêt les limites de Dieu, c'est plus la vie éternelle qui nous attend. Parce que la parole de Dieu nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, parce qu'il y a un mais avec le Seigneur Jésus. Il est bien ce mais. Hein? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Laissons Jésus faire le ménage dans nos cœurs. Laissons Jésus remettre les choses à leur place. Laissons Jésus mettre la vérité au bon endroit, parce qu'aujourd'hui, ce qui est bien est appelé mal, ce qui est mal est appelé bien. Et on parle de pureté, mais aujourd'hui, presque un jeune qui veut se garder pur pour le mariage, eh ben, il est presque montré du doigt. Hein. Un couple, quelqu'un qui ne va pas voir quelqu'un, bon, il est bizarre celui-là hein, ou celle-là. La pureté. Elle réside en Jésus. elle se trouve auprès de Jésus. Jésus veut faire le ménage dans nos vies, il veut chasser toutes ces choses qui n'ont pas leur place en nous, toutes ces choses qui coupent la liaison entre Dieu et nous, toutes ces choses qui nous empêchent de vivre une vie de bonheur, toutes ces choses qui nous empêchent de vivre une vie épanouie. Est-ce que vous êtes épanoui? Amen. Ça, c'est la vie avec Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Ça, c'est la vie avec Jésus. La véritable joie. Une joie qui dépasse tout entendement, toute intelligence. La paix que Jésus est venu donner. Et il donne, pas comme le monde donne, il le dira, mais il donne en entier, parfaitement. Il donne sans reprendre. Il donne sans demander d'intérêt. Mais il donne son amour. Il l'a donné une fois pour toutes à la croix. Il l'a donné une fois pour toutes en mourant pour chacun de nous. Alors si on veut vivre ce véritable bonheur tous les jours de notre vie, et cela pour l'éternité, il nous appartient d'accepter que Jésus vienne dans notre maison, dans notre cœur, faire du ménage et nous amener dans un lieu propre, un lieu pur, un lieu agréable, un lieu avec des limites. Parce que ces limites sont ce qui nous donne de la sécurité. Vous savez, un enfant qui n'a pas de limites, ça c'est ma femme qui disait ça quand elle faisait des stages dans la petite enfance, etc. Un enfant qui n'a pas de limites, ça sera un adulte malheureux. Et un homme, une femme qui n'a pas de limites avec Dieu, c'est quelqu'un qui sera malheureux pour l'éternité. C'est quelqu'un qui sera malheureux pour l'éternité. Dieu donne encore la possibilité de laisser Jésus entrer dans nos vies. Alors j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux pendant un moment, s'il vous plaît. Nous l'avons lu dans le premier verset que nous avons de notre passage, Jésus entra dans le temple. Et ce que Jésus veut faire en premier dans chacune de votre vie, c'est entrer. Il veut entrer. Il veut entrer dans votre vie. Il veut entrer pour faire du ménage. Bien sûr que Dieu nous aime tel que nous sommes. Bien sûr que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Mais Jésus veut transformer nos vies. Jésus veut nous amener à devenir comme lui, semblable à lui. Lorsqu'il reviendra nous chercher, la parole de Dieu nous dit que nous serons rendus semblables à lui. Et ça, c'est l'œuvre parfaite de Jésus. Jésus est entré dans le temple, il veut entrer dans votre vie. Acceptez de le laisser entrer. Acceptez juste de le laisser entrer et de le laisser agir. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'ouvrir votre cœur, que d'accepter de changer de priorité et de laisser Jésus placer de nouvelles priorités, de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs. Lorsqu'on essaye de vivre notre vie, on vit bien des échecs. Mais Jésus ne nous appelle pas à vivre des échecs. Jésus nous appelle, malgré les épreuves, à vivre des temps de victoire pour remporter la victoire éternelle. J'aimerais, si un cœur a ce désir de laisser Jésus entrer dans sa vie pour le laisser agir, faire le ménage, ôter ce que vous-même, vous n'arrivez pas à enlever, ce que vous-même, vous n'avez pas la force, la capacité à enlever parce que ces choses sont installées depuis bien longtemps, j'aimerais vous demander de lever votre main. Vous pouvez baisser votre main. Alléluia, Jésus. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. En levant la main, c'est ce signe, cet acte de foi devant Dieu et cette invitation à laisser Jésus entrer pour qu'il puisse accomplir son œuvre parfaite. Alors si vous avez ce désir, ceux qui n'ont pas encore saisi l'occasion et qui voudraient le faire, levez simplement votre main et je prierai pour vous. Alléluia, soyez bénis. Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu parles au cœur. Parce que ta parole est vivante, parce que ton esprit est efficace et qu'il agit en chacun des cœurs. Et je veux te prier pour ces personnes qui ont levé la main. Seigneur, tu vois, tu connais leur cœur, tu connais leur vie. Tu sais exactement, dans les moindres détails, tout ce qu'il y a dans les cœurs, tout ce qu'il y a dans les pensées. Tu sais exactement ce qui peut-être s'est installé depuis des semaines, des mois, voire des années. Et tu vois combien il y a cette difficulté à ôter ces choses. Mais toi, tu es celui qui peut tout. Toi, tu es celui pour qui rien n'est impossible. Alors je veux te prier, Seigneur, pour tous ces bien-aimés. Afin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les amener à vivre un renouveau. À voir ton œuvre de transformation en leur cœur. Seigneur Jésus, ce que tu as accompli il y a 2000 ans, ce que tu as accompli dans des vies, Seigneur, tu veux l'accomplir également dans leur vie, Jésus. Alors s'il te plaît, fais une œuvre merveilleuse. Merci parce que ton œuvre, tu la commences et tu vas la mener à la perfection. Merci Jésus pour ta grâce, pour ton amour et qu'à ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen.